Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'apérophonie sur Radio Campus 90.8. Aujourd'hui on se retrouve pour notre émission de présentation du programme de l'ouvre-boîte, comme on vous l'avait dit il y a 2 mois.
Oui.
Donc on va vous présenter le programme de janvier et de février. Donc avec nous on a Maëlle, qui est toujours la chargée de communication à la culture.
Oui, bonsoir, c'est toujours moi.
Et on a Kylian Drake, bonjour.
Bonjour.
Donc qui est le directeur artistique et chorégraphe de la compagnie Pompoko. Et donc avant de parler du programme, on va tout de suite commencer par écouter une petite musique, Duke Ellington, Mood Indigo. Oh.
Mood Indigo.
Thank you.
Et du coup, on va commencer par présenter un petit peu l'ouvre-boîte. Du coup, Maëlle, notre programme de janvier-février.
Voilà,
est-ce que tu as des temps forts un peu à nous présenter, le programme?
Oui. Alors, on a des beaux événements en janvier et février, et notamment donc, Season of the Witch de la compagnie Pompoko, mais on en parlera plus en détail un peu
juste après.
Mais je tiens à souligner que, en complément de ce spectacle-là, il y a des ateliers hip-hop qui sont organisés à destination des étudiants et des étudiantes. Voilà, c'est 4 séances, ça commence le 19 janvier, c'est ici sur le campus à Est.
Et c'est uniquement étudiants-étudiantes?
Ouais. Ça, c'est vraiment réservé au public étudiant.
Et c'est gratuit?
Et c'est gratuit, bien sûr.
Important de le dire.
Tout à fait. On a un deuxième spectacle de danse, house et de théâtre qu'on accueille le 25 février à 19h à Est, qui s'appelle Réajuster, de la compagnie Komok, qui est un spectacle autour du lien humain. Et on prépare aussi déjà le prochain festival culturel universitaire qui va avoir lieu en mars 2026.
Partenariat avec Radio Campus.
Tout à fait. Et oui, avec Radio Campus, on organise des ateliers aussi à destination donc, des étudiantes et des étudiants, des ateliers d'initiation à la création sonore ici à Radio Campus. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si ça vous intéresse et que vous étudiez à l'UGA.
Et le thème de cette année, ce sera rétro-futur.
Ouais. C'est ça, carrément.
L'année dernière, c'était passion.
Tout à fait.
D'ailleurs, les capsules de création sonore sont disponibles sur notre site, si vous voulez aller les écouter, pour le thème passion.
Trop bien, ça. Et donc, c'est des capsules sonores qui avaient été diffusées lors de la nocturne des étudiants. Et ce sera le même principe cette année. On ouvrira le festival avec donc, la nocturne des étudiants qui a lieu au musée de Grenoble, qui est voilà, une manière de bien commencer ce festival dans un lieu emblématique culturel de la ville. Et on a aussi des ateliers de programmation de courts-métrages en partenariat avec la Cinémathèque de Grenoble qui débute le 30 janvier. Donc voilà, si vous voulez apprendre à faire une programmation de cinéma de courts-métrages, allez-y, inscrivez-vous.
Donc là, c'est vraiment, c'est vraiment apprendre à faire un court-métrage.
Pas apprendre à faire un court-métrage, apprendre à faire une sélection et à proposer un point de vue à un public. Ouais.
Ok, voilà. Donc c'est le... Ouais. C'est celui qui gère quel film passe quoi, en fait.
Voilà, c'est ça, ouais.
Ok. Et pour les gens qui ne nous écoutaient pas sur notre émission d'il y a 2 mois, est-ce que tu peux rappeler un peu brièvement ce que c'est l'ouvre-boîte?
Alors, je connais mon petit speech par cœur, c'est parti. Donc l'ouvre-boîte, c'est la programmation culturelle 100% gratuite de l'Université Grenoble-Alpes, donc avec des événements qui sont tout public, des spectacles, des concerts, des visites guidées, des expos, des festivals, donc par exemple avec le Festival culturel universitaire, mais aussi des festivals de culture scientifique, comme la Semaine du cerveau, qui va aussi avoir lieu en mars prochain, et des sorties qui sont réservées aux étudiants et aux étudiantes. On les emmène au ciné, au musée, voir des spectacles dans des salles de l'agglomération. Voilà.
Est-ce que vous avez beaucoup de succès? Est-ce que, enfin, beaucoup de gens vous connaissent, savent ce que vous faites?
C'est difficile à savoir. Moi, je pense, en tant que chargée de communication, que on est quand même assez connu. Après, c'est vrai que ça dépend des filières en fait d'études. Il y a des publics qui sont plus sensibles.
Je pose la question parce que je sais que je connais des gens qui n'ont jamais entendu parler de ça.
En fait, c'est très facile de toucher les publics qui sont ici sur le domaine universitaire. Mais c'est vrai qu'à l'UGA, il y a des écoles qui sont pas à Saint-Martin-d'Hères. Donc, par exemple, si on étudie à l'IUGA à côté de Grand Place à Échirolles, c'est vrai que c'est des étudiants et des étudiantes qu'il faut aller chercher. Mais c'est un travail qu'on fait. On a une petite équipe de contrats étudiants, justement, qui fait du flying et qui va parler à leur père, en fait, sur place. Et ça leur permet de faire connaître la programmation de l'ouvre-boîte en dehors du campus.
Et vous êtes exclusif pour les étudiants? Ou hors étudiant, c'est possible aussi?
Alors, ça dépend des événements. Tout ce qui est vraiment atelier et sortie, c'est pour les étudiants et les étudiantes. Alors après, si on est dans une école privée et qu'on a un statut étudiant, c'est aussi OK. Hein, c'est pas que le public. Mais par contre, tout ce qui est spectacle à Est, à l'Amphidis, tout ce qui est exposition, concert ici à Ève, parfois, ça, c'est vraiment du tout public. Et c'est toujours gratuit, même pour les personnes qui ne sont pas étudiantes.
D'accord, très bien. Eh bien, on va aller poursuivre un peu pour plus en détail pour le spectacle Season of the Witch de la compagnie Pompoko. Et donc, juste avant de parler du spectacle, on va écouter la chanson du même nom, Season of the Witch de Donovan.
Yeah.
Many sights to see, and when I look in my window, so many different people to be, that it's strange, so strange. You got to pick up every stitch. Got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch. Mm-hmm. Must be the season of the witch. Must be the season of the witch. Yeah. Must be the season of the witch. Head looking over his shoulder at me, and he's strange, sure is strange. You got to pick up every stitch. You got to pick up every stitch, yeah. Beatniks out to make it rich. Oh no, must be the season of the witch. Must be the season of the witch, yeah. Must be the season of the witch.
Et on est toujours sur Campus Grenoble 90.8. Vous écoutez toujours l'apérophonie. Et du coup, maintenant, je vais cuisiner un peu Kylian qui est à côté de moi.
Allez, cuisinons.
Est-ce que tu peux nous présenter un peu la compagnie, déjà ?
La compagnie Pompoko, c'est un univers qui existe depuis 2022. Mais c'est une association officiellement qui a un an. En fait, avant, j'étais accompagné par l'association Next Tape qui est basée à Pontcharra. Et du coup, cette association portait les activités de la compagnie. Mais en 2022, c'est là où j'ai eu l'idée de mon premier spectacle de groupe. J'avais déjà fait un solo avant, d'ailleurs, qui a énormément été joué dans le campus et autour du campus, grâce à, entre autres, la direction de la culture. Et donc en 2022, j'ai eu l'idée d'une pièce de groupe qui s'appelle Under the Sun, une pièce pour 6 interprètes, qu'on a joué en 2024 à l'Est, en janvier 2024. Et parce que j'avais un univers qui était quand même assez déterminé et je savais ce que je voulais défendre artistiquement, je me suis dit qu'il fallait que tous ces projets artistiques soient hébergés par un espèce de... Enfin, pas une structure, mais je le voyais plutôt comme une maison autour de mes projets, un truc, ouais. Un nom, quoi. Ma montgolfière, j'aime bien appeler ça comme ça. Mon bateau de pirate avec tous mes amis et tout. Et du coup, ça s'appelle Pompoko. Et donc maintenant, c'est une association qui est une compagnie de danse, donc la compagnie Pompoko, mais on organise aussi des événements. Là, il n'y a pas longtemps, on a fait une soirée dansante rock'n'roll jazz manouche au Harpers à Grenoble. On donne aussi des cours pour les amateurs, les professionnels, mais aussi des personnes en situation de mobilité réduite ou des personnes avec des handicaps moteurs, mentaux, des soucis sociaux, etc. Enfin, vraiment, le but de l'association, c'est de toucher un maximum tous les publics.
Et c'est vraiment le plus inclusif possible.
Exactement, ouais. Bah, inclusif, mais en restant exigeant. Il y a un truc de...
Inclusif ne veut pas dire qu'on n'est pas exigeant après.
Non, c'est clair. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame. Et en tout cas, exigeant, exigeant, ça ne veut pas dire chiant. Exigeant, ça veut dire... franchement, tous les gens qui tombent dans un cours ou un atelier de médiation de Pompoko, ils sont respectés pour ce qu'ils sont et ils ne sont pas vus comme étant inférieurs ou moins forts ou des choses comme ça. Et avec des personnes en situation de handicap moteur, on a fait des trucs incroyables et eux-mêmes n'auraient pas cru qu'ils étaient capables de faire ces trucs en hip-hop. Souvent, on se dit « Ah, c'est pas possible » et tout. Et du coup, il y a un peu ce truc de... Bah, on essaye de faire des choses grandioses et lumineuses et toujours dans la joie. Et voilà. Et c'est vraiment un fil conducteur de tout ce qui se passe dans Pompoko.
Et du coup, t'as fait donc, en solo. Et c'est à partir du moment où t'as imaginé un projet de groupe que t'as créé un peu cette compagnie. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire un projet, enfin, de passer du solo à plusieurs danseurs ?
Bah, tous les projets que j'ai eus pour l'instant dans ma vie, c'était jamais des plans que j'avais prévus et je m'étais pas dit je vais faire un projet de groupe un jour. C'est vraiment un jour, j'étais pas loin de Bordeaux, dans la campagne, sous le soleil, en mois de février. Tu sais, le jour du mois de février où t'as l'impression que ça y est, le printemps il arrive, là d'un coup il fait chaud.
Que là, d'un coup, tu étais en mode « Ah là là, il commence à refaire bon, trop cool !»
Il fait 16 degrés, il y a du soleil et tout, et voilà. Et ben ce jour-là, j'ai eu plein d'inspirations qui se sont réunies dans le spectacle qui deviendra Under the Sun. En vraiment, une après-midi, il y a plein de choses qui se sont rejointes au même endroit. Et notamment, des amis auxquels je pensais très explicitement, je me disais « Ah, mais je veux trop faire... Si je dois faire tout ça, ce serait avec ces personnes-là. Okay. » Parce que j'aime comment elles dansent, j'aime leur énergie... J'aime ce qu'elles sont dans la vie aussi. Et en fait, Pompoko, c'est aussi, dans la compagnie, quelque chose qui se passe quand même principalement avec des gens que je connais déjà et des amis, parce que je les admire d'une manière ou d'une autre. Et j'aimerais ne m'entourer quasi que de personnes où je pourrais aussi travailler pour ces personnes. Enfin, il y a un truc oui. où... J'aime pas trop la position hiérarchique et ultra descendante du chorégraphe qui sait tout et décide de tout. Et j'essaye au max de travailler avec les gens parce que je sais qu'ils sont aussi créatifs et elles sont aussi créatives. Et pour moi, c'est important de créer des conditions qui font qu'on peut atteindre un truc supérieur et qui ne dépend pas que de ma personne, ce que je trouve très égoïste ou égocentrique.
Ouais, être à part égale sur un travail, en fait.
Ouais, grave. Mais dans, du coup, dans Under the Sun, c'était pas le cas. d'Under the Sun, j'avais grave une idée du spectacle ultra prédéterminée. Et du coup, c'était... Enfin, j'ai réalisé en faisant le spectacle que c'était ultra...
Ça te plaisait moins ?
Ah bah, ça m'a pas mis à l'aise. Enfin, au fur et à mesure du spectacle, je me rendais compte que je demandais aux gens un peu d'exécuter des idées que j'avais à l'avance. Mais en fait, je reproduisais les mécanismes que j'avais toujours appris avec toutes les compagnies de danse pour lesquelles j'ai bossé. Et je bossais pour beaucoup de chorégraphes hip-hop. Mourad Merzouki, Bouba Landry, Chouda, Anthony Egea et d'autres gens. Et en fait, ça m'a pas du tout plu. Et du coup, Season of the Witch, c'est aussi né de ce qui s'est passé dans le dernier spectacle. Voilà.
D'accord. Voilà. Et, bah, c'est un peu comme, hein, c'est comme ça que s'est construit le spectacle au final. J'ai vu que vous aviez fait plusieurs laboratoires.
Ouais, on en a fait deux. Ouais.
Et est-ce que pour les gens qui nous écoutent, tu peux nous expliquer ce que c'est ?
Un laboratoire en danse.
En danse.
Ouais. On n'est pas dans une salle avec des potions et on mélange des produits toxiques. C'est plutôt qu'on se met dans un autre type de salle, genre un studio de danse. Et en gros, on discute du projet, des idées. Alors ça, c'est aussi ma manière de faire.
Oui.
Mais moi, j'arrive toujours avec quelque chose à proposer, des idées et des choses qui peuvent nous emmener plus loin et qui peuvent nous challenger surtout. Je leur explique mes intentions pour le projet, que je pourrais expliquer plus tard dans cette interview. Oui. Et à partir de là, on se met à travailler, c'est-à-dire qu'on essaye de la matière dansée, littéralement. On essaye de créer des choses, des chorégraphies, etc. Sauf que vraiment là, le processus de Season of the Witch, il était différent de tout ce que j'avais jamais fait avant. Et du coup, dans ces laboratoires, en fait, il faut que je rentre dans le concret très rapidement, parce que sinon, ça ne veut rien dire. Mais en gros, c'est que, historiquement, en danse, et surtout en danse hip-hop, enfin, la danse hip-hop vient et est inspirée vraiment, elle vient pas, mais elle est inspirée du processus de création de la danse contemporaine et la danse classique. Parce que c'était là avant, et du coup sur scène, les chorégraphes hip-hop veulent faire comme ce qui se passe avant, c'est-à-dire des spectacles de danse contemporaine, ou classique, ou du théâtre, ou de la danse moderne, ou voilà. Et c'était ce que les chorégraphes regardaient. Et la danse contemporaine qui s'inspire de la danse classique qui s'inspire du théâtre, qui vient littéralement du théâtre, historiquement, et du coup il y a grave une notion dans les spectacles de narration. On raconte une histoire, il y a des rôles, il y a un peu des personnages, le spectacle est écrit de A à Z comme une histoire, il y a un début, un milieu, une fin, ce sera toujours la même chose, ou alors il y a des micro-variations, mais c'est vraiment des micro-variations, et du coup c'est un peu comme si on avait un film qu'on est prêt à remettre dans toutes les salles de spectacle de la même manière à chaque fois, et peut-être que des fois ça va un peu changer, mais c'est vraiment minime, c'est t'as 4x8 pour faire ce que tu veux.
C'est très millimétré sinon.
Mais voilà, c'est ça. Et par contre, si tu rates le cue, si tu rates le point là, cet endroit-là, ça va foutre en l'air la chorégraphie, quoi. T'as pas le droit de te tromper, tu vois. Ou alors, à ce moment-là, faut que tu regardes précisément là. Ou alors, il faut que tu penses à ça pendant que tu danses. Non.
Et puis même, des fois, ça te fout toi-même en l'air parce que... Moi, j'ai fait ce genre un peu de spectacle et... Des fois, tu loupes un truc et t'es en mode
ouais,
ah là là,
mais j'ai raté le spectacle.
Et c'est, ça te fiche complet.
Ouais. Et bah moi, j'ai fait quasi que ça. J'ai fait vraiment quasi que ça. Sauf que moi, en tant que danseur hip-hop, j'ai jamais appris à faire ça. Moi, on m'a appris à improviser, à faire du freestyle, à être réactif, à m'amuser. Le cœur de la danse hip-hop, c'est prendre du plaisir et s'exprimer. Et ce truc ne se retrouve pas du tout dans la manière de faire des chorégraphies de tout ce que je vois et... tout ce qu'on m'a appris en fait chorégraphiquement en hip-hop. Et du coup, je voulais créer un spectacle qui puisse donner une liberté vraiment aux interprètes de faire, de répondre en gros à des consignes, mais de la manière dont ils veulent, tant que ça répond aux règles du jeu en gros. Et en fait, on crée des jeux pendant tout le spectacle. Et du coup, par exemple au football, en soi, les gens qui jouent sur le terrain sont archi libres. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont le droit d'aller à l'autre bout du terrain et de courir et de crier et tout. Mais ça ne va pas répondre à l'objectif de marquer le but dans la cage de l'adversaire. Ils savent que si la balle elle sort du terrain, il y a une touche ou il y a un corner. Pas le droit de toucher à la main. Mais du coup aussi, on s'organise pour faire passer le ballon de manière efficace jusqu'au but. Mmh. On a un but. Il y a quelque chose qui est très clair, tout le monde sait. Du coup, tout ce que les gens font, c'est toujours dans ce but. Et en fait, tout ce que les gens font est toujours cohérent. Et du coup, ça crée une chorégraphie sur le terrain de foot. Et tous les sports collectifs, c'est un peu ça. Et ça, c'est ce que j'appellerais un système. Il y a des règles, il y a des participants, Et les participants sont libres de répondre de la manière dont ils veulent à ces règles. Et du coup, c'est hyper naturel et organique. On leur a pas demandé, on peut pas prévoir un match de foot à l'avance. On peut pas prévoir les mouvements des joueurs à l'avance.
Et je... non, ça risque d'être compliqué.
Ouais. Et je pense que la danse hip-hop et la chorégraphie répondent plus à ce genre de logique qu'à une logique de, on a écrit tous les mouvements de manière ultra précise à l'avance, et du coup on va répéter ça à chaque fois, à chaque spectacle, et après on appelle ça de l'art vivant. Moi je vois plutôt des gens qui répètent bêtement la même chose à chaque fois, et c'est pas vivant vu qu'ils s'expriment pas, c'est pas eux qu'on voit sur scène, c'est l'expression de l'ego de la personne qui a décidé qu'on allait faire ça sur scène.
Et donc le spectacle là que tu vas présenter, il peut être joué complètement différemment
Ouais.
Sans... Ouais, c'est ça, vous changez en fonction des représentations.
Pas complètement différemment, parce qu'on a un cadre, ouais. Et ce cadre, il permet qu'on ait un spectacle qui soit pas un globi-boulga d'improvisation, pas maîtrisé, pas cadré, un peu bancal, qui ça aussi, je trouve ça pas très grandiose. Mais du coup, c'est plutôt plein de moments qui sont suffisamment cadrés pour que ce soit pas trop random, mais pas assez restrictif pour qu'on puisse, nous, les interprètes sur scène, être libres de prendre des décisions et être responsables de tous les choix qu'on fait sur scène. Mmh. Et en fait, c'est un spectacle où on est tout le temps responsable de ce qu'on propose aux autres et on réagit plutôt qu'être basé sur la mémoire. Et c'est vraiment un spectacle qui, bah oui, effectivement, c'est jamais la même chose, mais du coup, pour nous, c'est trop fun et c'est beaucoup plus hip-hop que... Enfin, ouais, c'est bien plus hip-hop dans ce sens-là, dans le sens où... Quand on est dans un battle ou dans un cercle de danse, bah, on est toujours en réaction à ce qui se passe en face, autour, à côté, à la musique. On ne sait pas quelle musique va être jouée, etc. Là, on sait, parce qu'on peut pas, on va pas reproduire un battle ou un cercle de hip-hop sur scène. Ce n'est pas le but. Mais on utilise du coup tous ces paramètres de la scène, mais pour en faire un truc beaucoup plus libéré, beaucoup plus libre. Et cet aspect de la liberté, pour moi, il est trop important. Les gens ne sont jamais autant heureux que quand ils sont libres et qu'ils savent ce qu'ils font précisément et pourquoi ils le font.
Ça doit carrément changer l'ambiance dans les loges avant le spectacle, non ? Cette petite tension de ne pas savoir exactement ce qui va se passer.
Bah,
qu'est-ce que tu en penses ?
Je pense que justement, ça détend un peu plus l'atmosphère. Parce qu'il y a un truc de... T'as pas... C'est vraiment... Il y a peu de choses qui sont basées sur la mémoire. Donc il y a peu de moments du spectacle où tu peux te dire « Ouh la merde, c'est quoi déjà la suite ?»
Ouais, y a un stress qui est différent, je pense. Il ouais. Y a moins de stress de dire oh, « faut que je sois dans la représentation parfaite ».
Non, oui. Par contre, il y a beaucoup plus « Ok, à partir du moment où ça commence, je dois être présent ou présente à 100% parce que je serai toujours en interaction avec les autres. » Et il y a aussi énormément de regards et d'imprévus et de risques. Et en fait, on aime trop ça. Enfin, genre, c'est trop fun. Mais du coup, si t'es pas focus au moment où il faut être focus... Peut-être que tu vas rater des informations, peut-être qu'il y a quelqu'un qui te propose quelque chose et t'aurais pu répondre. Mais d'une manière ou d'une autre, je crois que je préfère mille fois ça plutôt que quelque chose qui soit tout le temps la même chose de manière millimétrée et un peu inerte.
Non, mais puis je pense que même pour le spectateur aussi, c'est intéressant de pas avoir... Enfin, si tu viens voir le spectacle deux fois, de pas avoir non plus exactement le même spectacle...
Mais les gens,
je trouve que c'est intéressant.
Les gens sont mis au courant d'une certaine manière de un peu tout ça là. T'arrives pas dans la salle en étant complètement inconnu au concept parce qu'au début, en gros, on parle au public, on explique quelque chose qui est un peu dans ce sens-là. Pour moi, l'objectif, c'est de reconnecter avec l'essence des danses sociales et urbaines, pas de refaire un copier-coller théâtral ou classique ou contemporain de ce qu'est le hip-hop. Alors que le hip-hop, c'est pas né sur scène, c'est pas né dans les studios. C'est né dans des contextes où les gens étaient en réaction à et ils s'exprimaient de manière archi personnelle et ça c'est trop important pour moi. De voir mes amis danser comme ils aiment danser et pas comme on leur a demandé de danser. Oui.
Ouais, d'avoir vraiment la vraie expression du corps quoi.
Ouais, ouais.
Et du coup là on est sur tout le processus créa, mais le spectacle il parle de quoi Il parle de quoi? Il est sur quoi? Il est à propos de quoi?
Eh ben, le spectacle n'est pas à propos de quelque chose, justement. Okay. C'est pas une histoire, c'est pas une narration. C'est vraiment tout ce truc qu'on associe, mais de manière logique et historique. En fait, en Europe, tout vient du théâtre à ce niveau-là. La scène, ça, c'est né avec le théâtre. Et du coup, on a de base les codes du théâtre, mais pour un peu n'importe quel spectacle, de danse. Alors que, encore une fois, hein, le hip-hop, c'est pas du tout, du tout... Il n'y a pas de narration, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de... Même, il n'y a pas de, de thème. On ne parle pas de quelque chose quand on danse hip-hop.
Oui, bah
on parle de soi. On parle de ce qu'on a envie de danser au moment, sur cette musique, avec ces gens autour, etc. Et du coup, vu qu'il faut quand même expliquer qu'est-ce que le spectacle, Season of the Witch, c'est juste le nom de la première musique du spectacle.
Ouais.
Et j'ai grandi avec cette musique à la maison. Mon père, il écoute beaucoup de rock. Et... je pratique aussi le swing.
Ok.
Et donc, j'écoute énormément de jazz. Et depuis quelques années, j'ai découvert, en gros, un concept qui s'appelle le jazz continuum. Et c'est trop passionnant. En gros, c'est le fil musical et dansé qui est né avec le jazz et le blues et qui a donné naissance à toute la musique afro-américaine du 20e et 21e siècle.
Ok.
C'est-à-dire que sans blues, sans jazz... pas de boogie-woogie, pas de rhythm and blues, pas de rock'n'roll, pas de funk, pas de soul, pas de hip-hop, pas de house, pas de techno. Et ça, c'est que des choses qui découlent de le blues et le jazz. Et du coup, le hip-hop, la funk, la soul, la house, tout ça, c'est vraiment des ancêtres directs du jazz. Et à travers le spectacle, je voulais aussi rendre hommage à ce fil afro-américain. Et moi-même, je suis afro-descendant, ma mère, elle est gabonaise. Et du coup, c'est sans non plus m'approprier un truc américain. Je ne suis pas américain, mais n'empêche que je sens une connexion avec le groove, l'expression individuelle, un truc vraiment très naturel dans la danse et pas théâtral, justement. Et du coup, dans ce spectacle, je voulais passer par du rock des années 60, de la batterie pure et du jazz, avec de la danse hip-hop, dans des cadres qui nous permettent d'être libres et nous-mêmes, mais toujours challengé par les systèmes chorégraphiques. Il y a un truc de défi tout au long du spectacle. Et donc, si je devais dire de quoi parle le spectacle, c'est la liberté. Mais c'est pas aussi simple que ça de répondre à cette question.
Bah, je me doute bien. Puis en fait, j'ai regardé le trailer.
Ah ouais, le trailer n'est pas à jour.
Ok.
C'était... ouais, enfin vas-y.
Parce que non, mais parce que du coup, le trailer, il est très... il est très, très sorcellerie, très... très
nature,
cortège de femmes dans la nature.
Ouais.
C'est vrai que je me posais la question par rapport au hip-hop, qui est quand même une danse assez, assez urbaine.
Mm-hmm.
Comment vous joignez les deux ?
Eh ben, la danse vient de milieux urbains, mais la danse en elle-même, elle peut être faite n'importe où, par n'importe qui, etc. Mais en fait, le teaser, c'est un peu un teaser piège, parce que en gros, au tout début du spectacle, les personnes auxquelles j'ai pensé, c'était que des femmes. C'était des amis, mais c'était que des femmes. Et à cette époque, j'avais pas ce truc de... Enfin, j'avais que la musique Season of the Witch et l'intention de créer des systèmes chorégraphiques qui nous permettent d'être libres en tant qu'interprètes sur scène et qui se rapprochent de l'essence du hip-hop. Et donc, il y avait rien, notamment par rapport à la sorcellerie ou des choses comme ça. Mais du coup, quand on s'est retrouvés dans le studio avec mes potes, forcément, dans les discussions, il y a le thème des sorcières, littéralement, qui est venu sur le tapis. Et moi, à cette époque, j'étais pas du tout au courant que c'était quelque chose de féministe, déjà.
Okay.
C'était il y a 2 ans et demi maintenant. Et j'étais pas au courant. Et elles m'ont fait ma culture en grande partie. Elles m'ont donné des ressources, des podcasts. Des...
Mona Chollet,
par exemple. Voilà. mais voilà. Et du coup, je me suis renseigné. C'était grave intéressant. Et j'ai eu, en gros, une période de 6 mois où je me suis demandé si le spectacle allait parler de ça.
Ok.
Et après, on a eu le deuxième laboratoire où on a fait le teaser. Et du coup, c'était un peu avec ces inspirations qui traînaient. Mais à la fin de cette semaine, j'ai réalisé que, mais pas du tout. Moi, à la base, je voulais pas parler des sorcières. Moi, je voulais parler de... Enfin, je voulais qu'on puisse s'amuser, être challengé et libre sur scène dans avec des outils de la danse hip-hop sur des musiques rock et jazz.
Ok.
Voilà, c'était vraiment ça, le truc. Et du coup... Le teaser, il est joli par contre.
Enfin, il est très joli, il est très poétique, je trouve.
C'est clair, mais je pense qu'il ne traduit plus exactement l'ambiance du spectacle, notamment parce qu'aussi on a du graffiti sur scène, on danse avec des bombes de graffiti, et ça fait partie de nos systèmes chorégraphiques. En gros, il y a de la couleur qui apparaît, on commence, c'est tout blanc, et on finit, c'est le chaos, enfin, c'est pas le chaos, mais c'est une explosion de couleurs.
De couleur.
Et voilà, du coup, pour la nature, il y a des fleurs dans le spectacle. Il y a des pétales et il y a des fleurs.
Vous ramenez des éléments extérieurs quand même.
Ouais, Mais ça, c'est parce que c'est aussi fun de jouer avec autre chose que oui. juste son corps. Et en fait, tout part de... Est-ce que ça va être fun? Est-ce que ça va nous challenger? Comment est-ce qu'on a envie de se challenger? Avec quels outils? Je sais pas, il y a un passage où on doit avoir toujours la tête au sol.
Ah, c'est rigolo, ça.
On joue avec ça, par exemple. Mais ça ne dit rien. Il n'y a pas de thème à ça, tu vois.
Oui, bah
les,
oui.
les gens, par contre, interprètent ce qu'ils veulent. Et à nos sorties de résidence, on nous a dit un truc le plus incroyable. Et moi, j'adore ça. Et ne pas expliquer le titre, ne pas expliquer de quoi ça parle, mais écouter plutôt les gens me dire qu'est-ce qu'ils ont vu. Je trouve ça beaucoup plus stimulant.
Ok. Et mais du coup, donc, je sais que vous fonctionnez avec des toiles sur des chevalets pour ce spectacle. Comment l'idée est venue?
Eh bien, dans mon spectacle précédent, Under the Sun, on avait 18 blocs de polystyrène assez gros quand même, qui avaient toutes ces couleurs différentes. Et l'idée, c'était de jouer avec un élément extérieur pour organiser l'espace avec autre chose que nos corps. Et ça, c'était vraiment juste le but. Et aussi, c'est de la couleur. Et la salle de théâtre et la scène, c'est quand même tout noir. Et du coup, dans ce genre d'univers, moi, enfin, je sais pas, c'est peut-être dans ma vibe et ma personnalité, mais j'ai envie de rajouter de la couleur là-dedans, en fait. Je trouve que c'est un peu dark, sinon. Et là, du coup, je voulais continuer avec ce genre de jeu. Et du coup, commencer avec quelque chose de pur, blanc et assez propre. On commence aussi sur de la musique rock, qui est un peu plus structurée, et on fait que de la danse. Et au fur et à mesure du spectacle, on déconstruit toute la scène. Donc déjà, on n'a pas de pendrillon. Il n'y a pas de coulisses, les coulisses sont à vue. Donc quand on est à l'extérieur, on nous voit reboire de l'eau à l'extérieur, etc. Il n'y a pas de fond de scène. Donc pareil, on voit tout le théâtre, on voit tout le théâtre tel qu'il est. Donc c'est très pur, il y a un truc de... Ce n'est pas une pièce de théâtre. Ouais. C'est des gens sur scène qui vont danser ça. Et au milieu, il y a ces chevalets. Et au fur et à mesure du spectacle, le graffiti, il apparaît. La couleur, elle apparaît. Et ça devient de plus en plus rempli et vivant.
Et organique.
Et ouais. Et voilà.
Et là, tu disais, vous dansez un peu aussi pour le challenge, l'exercice, pour prendre du plaisir. Est-ce que vous dansez aussi un peu pour avoir un rendu qui est beau? Ou c'est pas votre premier objectif?
Bah, quand on est sur scène et qu'on a nos systèmes chorégraphiques, on sait quelle est la règle du jeu à chaque... challenge, à chaque jeu, en gros, on sait quel est notre but. Et du coup, le seul objectif, c'est de répondre à ce but. Comme, je reviens sur le foot, c'est un bon exemple, mais le but, c'est de mettre le ballon dans la cage. Après, que tu fasses une retournée acrobatique ou que tu le mettes avec, avec les fesses...
Oui, on s'en fiche.
Le ballon a traversé la ligne, tu vois. Et du coup, ça, c'est la responsabilité de chacun d'apporter sa patte à l'édifice. Et moi, je maîtrise rien de tout ça. Je leur ai jamais dit à aucun moment, faut que ce soit beau, faut que ce soit nanana, faut que ce soit ça. C'est nous, ensemble, qui avons construit la majeure partie des règles. Il y en a beaucoup qui sont venus de moi uniquement, mais fallait bien que ça commence quelque part.
Fallait bien que quelqu'un prenne l'initiative de départ.
Ouais. Et du coup, je pense que on est tous très conscients, mais on n'a même pas besoin de se le dire. On est sur scène, évidemment, qu'on va faire des trucs qu'on trouve stylés, mais on le fait pas pour que les gens le trouvent stylé, on le fait parce que nous, on aime danser comme ça. Genre, moi, il n'y a aucun moment où je me dis, il faut que le public voit ce genre de mouvement. Je me dis, c'est plutôt, là, ce serait trop intéressant de répondre à cette consigne par ce mouvement. Et après, ce que ça rend, je ne suis plus maître de rien, mais je pense que les systèmes sont suffisamment bien huilés pour que ça rende toujours quelque chose de bien.
Okay.
Parce que c'est suffisamment cadré. C'est pas trop aléatoire non plus. Et aussi, pour aller plus loin, moi, en tant que chorégraphe et directeur artistique, c'est mon job de faire en sorte que l'œuvre globale ressemble à quelque chose et soit cohérente.
Il y a une cohérence, ouais.
Et là, du coup, c'est le choix des le type de costume, les couleurs avec lesquelles on va graffer, la taille des tableaux, des éléments scénographiques. Quand on a fait la lumière du spectacle, j'avais toujours aussi un œil sur ce qui se passait, même si j'ai énormément laissé carte blanche à Célia Allard, qui est la créatrice lumière et régisseuse du spectacle. Et du coup, moi, j'ai cet œil extérieur de « Ok, il faut que ça soit quelque chose, il faut que ça ressemble à quelque chose. » Il y a une vibe, il y a un univers, mais quand on danse, l'objectif, c'est pas être beau. L'objectif, c'est, encore une fois... Enfin, on est tellement dans le moment présent que je pense qu'on n'a même pas le temps de se dire
Est-ce que c'est beau?
Ouais, c'est...
Ça, c'est ça... se sentir libre, se sentir bien, ouais. Le moment présent.
Ouais.
Ok. Et vous le jouez... Tu parles régisseur son lumière, vous le jouez qu'en intérieur ou vous faites aussi des scènes extérieures?
On le fait aussi en extérieur, mais alors ce qu'on pourrait appeler extérieur pour l'instant, c'est... Bah, c'est pas extérieur, c'est dans une clinique. C'est à la clinique Roche-Plane de Saint-Martin-d'Hères. Ça sera le 30 avril, mais du coup, je pense que ce sera réservé... Quoique non. Non, je sais qu'ils autorisent qu'il y ait des personnes extérieures qui viennent, mais c'est quand même à destination du personnel et des patients de la clinique. Et on a des options pour le jouer en extérieur, en été, mais pas cet été, l'été 2027, pour l'instant.
Ok.
C'est des options, je peux pas trop en parler.
Et... C'est un spoiler, revenir en 2027.
Mais voilà, le spectacle est aussi faisable dehors.
D'accord. Ouais. Et bon, là, je sais pas si t'as vraiment du recul par rapport à ce spectacle pour l'instant, mais est-ce que vous êtes fier de vous et de ce que vous... De ce spectacle, au global. Est-ce que vous êtes fier de vous? Ou vous êtes content de ce que vous faites? Plutôt, on va dire ça comme ça, plutôt.
Bah là, du coup, je vais parler quand même beaucoup au nom des danseuses avec moi. Du coup, j'ai pas envie de dire trop un truc à côté, mais elles m'ont toutes fait savoir qu'elles étaient contentes. Ça, c'est clair. Et j'ai eu de leur part, ouais, des vrais retours de « c'est trop agréable de travailler comme ça et d'être comme ça sur scène », parce qu'en fait, ça n'arrive jamais. Et mais moi, c'est vraiment venu d'une frustration, donc je pense que c'est forcément partagé par d'autres danseurs et danseuses de danse sociale et urbaine, c'est sûr. Ce truc d'être enfermé par l'écriture chorégraphique et de ne pas avoir le droit à l'erreur, enfin, ou que tout soit vu comme une erreur si c'est pas exactement ce que le chorégraphe a décidé pour toi. Et du coup, elles m'ont toutes fait savoir que ouais, c'était super agréable parce que ça challenge, mais on peut quand même trouver du kiff là-dedans. Et donc voilà, ça c'est ce que je dirais de leur côté. Moi personnellement, je suis trop fier. Je pense que c'est la plus belle œuvre que j'ai jamais créée pour l'instant. Et j'ai extrêmement hâte que les gens le voient. Parce que c'est super excitant de montrer que c'est possible de faire de l'improvisation pendant tout un spectacle. Mais d'avoir quand même des verrous, des cadres qui font que c'est beau à regarder. Et en fait, on l'a faite à Lyon devant deux classes de primaire et une dizaine d'adultes. Et les enfants, ils ont adoré. Ils ont vraiment adoré. Des fois, ils criaient ou ils faisaient des remarques pendant le spectacle en mode waouh, mais... Enfin, ils parlaient, tu vois. Mais ça, c'est génial. Si j'arrive à tenir des enfants sur une heure de spectacle.
Oui, c'est vrai que quand on est petit, des fois, une heure de spectacle.
Oui, mais à la fin, ils étaient encore surexcités de ce qui venait de se passer. Et les adultes, les 10 adultes de la salle, ils sont venus me voir à la fin pour me dire oh, mais ça fait trop du bien de voir un truc comme ça, mais merci, c'était tellement positif et lumineux et tout. Et autant le dernier spectacle, j'avais des doutes parce que j'avais compris que ça m'énervait ce truc de un peu trop décider pour les autres qu'est-ce qu'ils doivent faire précisément. Là, tu vas faire ce mouvement. Là, tu vas aller dans cette direction. Autant là, travailler avec des gens et savoir qu'elles sont très libres de leurs décisions sur scène, bah, c'est trop agréable. Je leur fais trop confiance et j'ai raison parce qu'elles sont trop fortes. Et c'est beaucoup plus pur comme sentiment, je sais pas comment dire, mais... Donc ouais, moi je suis trop fier là, j'ai trop hâte de le montrer à Est.
On a hâte aussi.
Ouais, à Est le 28 janvier, si oui, je ne me trompe pas, on va le répéter, hein, histoire que vous notiez bien la date.
À 19h.
Et vous faites du coup des ateliers en plus du spectacle, genre vous faites de la bombe, il me semble que vous faites des ateliers de bombe de peinture.
Nope.
Oh waouh, bah je lis le dossier de presse pas correctement alors.
Ah ouais,
Vous faites des ateliers en rapport avec le spectacle.
Oui, mais les ateliers avec la bombe, ils sont pas avec l'Est. On en fait avec la clinique Roche-Plane.
Ok.
Non, à l'Est, ce qu'on fait, c'est plutôt l'exploration des outils chorégraphiques du spectacle et de certaines techniques de danse, enfin de mouvements vraiment purs qui sont utilisés dans le spectacle. Mais il y en a pas tant parce que, comme je dis depuis le début, on est archi libre, donc on est on danse vraiment comme on est nous-mêmes. Mais par contre, mon objectif avec les étudiants et les étudiantes, là, c'est d'arriver à créer leur système chorégraphique. Au début, je vais peut-être montrer un peu ce qu'on fait dans le spectacle, mais le but, c'est pas de recopier tout le spectacle. Pour moi, c'est plus intéressant d'avoir un groupe. En plus, ce sera le même groupe pendant 4 séances. Et du coup, avec ce groupe, on peut créer des outils chorégraphiques qui viennent et qui émergent du groupe. Et tous les groupes sont différents, donc je pense qu'il faut retravailler de zéro avec tous ces groupes. Et, Et voilà, j'ai envie de leur montrer comment je travaille chorégraphiquement, en fait.
Est-ce que c'est important de travailler avec des gens avec qui on s'entend bien, ou des fois avec des gens que tu connais pas, ça peut le faire aussi?
J'ai jamais travaillé avec des gens que je... Alors, en danse, j'ai jamais travaillé avec des gens que je connaissais pas. Mais parce que ça me donne pas envie, ça m'intéresse pas, ça m'attire pas. Je pense déjà trop à certaines de mes amies.
Ouais.
Je me dis, mais pourquoi j'irais voir ailleurs? Enfin, il y a déjà tous ces gens fantastiques autour de moi. Par contre, pour la technique, j'ai dû faire appel à des personnes que je connaissais pas, des fois. Comme Célia à la lumière, je la connaissais pas avant le spectacle. Et c'était super agréable de bosser avec elle. C'est toujours une rencontre. Donc, des fois ça passe, des fois ça casse. Pour l'instant, ça n'a pas trop cassé, je crois. Enfin, il me semble pas.
On aime bien le je crois.
Ouais, enfin, si, ouais. Et je sais pas, chorégraphiquement, moi je trouve que c'est trop cool d'arriver à inclure ses amis. Ah oui, aussi, mais ça, j'ouvre le sujet, mais en fait, les gens sont payés en répétition. Les gens sont payés en spectacle. Et moi, il y a cette volonté qui est aussi au-delà de l'artistique, c'est que je sais que les gens qui travaillent avec moi, je les aide à payer leur loyer. Et ça, moi, en tant qu'employeur, c'est une victoire. Mais vous pouvez pas vous imaginer à quel point c'est incroyable d'avoir ce sentiment de « Waouh, on fait de l'art, moi je me tue à trouver des subventions, des projets, des sous, je fais des projets pour... » Mais en fait, pour qu'à la fin, on bénéficie tous de ça, et il y a des gens... J'ai aidé des personnes à avoir leur intermittence du spectacle avec mon dernier spectacle, et ça me rend trop fier. Et je suis trop content, en fait, de participer à cette dynamique de... je les aide aussi à ce niveau-là. Et c'est pas juste on fait de l'art ensemble et c'est trop chouette et c'est trop cool.
On revient à la réciprocité dont tu parlais au début.
Ouais.
Que c'est pas que eux qui t'apportent quelque chose et que tu peux aussi leur apporter quelque chose.
Oui. Mais si... Enfin, les connaissances, si elles voulaient pas... Enfin, il y avait d'autres personnes avant qui étaient dans les laboratoires. Et par exemple, il y a une fille qui a dit « Moi, je sens pas trop cette manière de travailler. Enfin, c'est pas trop mon truc. » Elle est partie.
Okay.
Et c'est OK. Et je pense qu'aussi, les gens qui sont là, ils s'y retrouvent. Donc,
OK.
Et ouais. J'aime pas trop ce rapport de pouvoir qu'implique être employeur, parce que tu sais que tu payes et du coup, t'as l'argent qui rentre en compte et voilà. Mais je suis tellement clair avec elle sur les finances de l'association et sur nos possibilités, etc. Et je les cale sur aussi... les danseuses, je les mets sur plein de projets de médiation. Je fais en sorte que ce soit pas que moi qui fasse ces projets. Et ça, ouais, c'est... Je sais pas, c'est satisfaisant.
Enfin, ouais, t'es assez transparent, en fait.
Mais t'imagines, tu recrutes 7 personnes ?
Non, j'imagine pas, je pourrais pas.
Il y a 7 personnes, à la fin, elles font leurs courses et elles payent leur loyer parce que t'as décidé que c'était tes amis, que tu voulais les aider. Et...
Moi, mais je pense que j'aurais trop peur de faire une connerie et que tout le monde finisse par me détester.
Bah, c'est... Ouais, c'est peut-être... inhérent à la dynamique d'être employeur, mais j'essaye de faire au mieux, en tout cas. Enfin, j'essaye d'avoir des bonnes intentions.
Voilà, de ce que t'en dis, ça a l'air d'aller quand même.
Oui, on verra.
Et on va se diriger tout doucement vers la fin de notre émission.
Mm-hmm.
Mais j'ai juste oublié de te poser une question. Pourquoi le nom Pompoko ?
Pompoko, c'est connu du grand public comme étant un film des studios Ghibli.
Oui.
De Isao Takahata, donc c'est pas Miyazaki, c'est l'autre. Et moi j'ai grandi avec ce film. Et en gros, ça parle des tanuki, c'est des espèces de chiens ratons laveurs qui peuvent se transformer en tout ce qu'ils veulent. C'est des esprits du Bouddha, donc des yokai, des esprits de la forêt en gros. Et ils ont perdu l'art de la transformation. Et en gros, c'est dans les années 60, dans l'agglomération de Tokyo. Les humains commencent à vraiment trop gratter leurs montagnes et à construire des quartiers de partout. Et les tanuki se disent « Ah mais non, il faut que les humains se rappellent qu'il faut respecter la nature et leur environnement. Du coup, on va récupérer l'art de la transformation. On va leur faire peur. On va leur faire comprendre que les esprits existent pour qu'à nouveau, ils respectent la nature. » Et en fait, le film, il est grave doux, amer. C'est-à-dire que eux, ils sont trop bons vivants. Ils rigolent. Ils se reproduisent. Ils mangent. Ils font la fête. Ils se battent, ils dorment, et c'est ça pendant tout le film. Mais en parallèle, il y a les humains qui grattent leur montagne, et en parallèle, ils continuent de se battre pour se défendre. Et du coup, il y a un peu ce truc de « Ah, mais en fait, on sait où ça va, parce que Tokyo, on sait ce que c'est devenu, et en fait, on sait très bien que cette colline, elle va pas tenir. » Mais eux, ils ont toujours la pêche, ils sont toujours à fond. c'est trop lumineux et poétique, mais c'est pas naïf. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que ça m'inspire. Et Pompoko, en fait, c'est le nom de l'onomatopée de quand ils tapent sur leur bide avant de se transformer. Genre en français, on dirait Badaboom, par exemple. En japonais, c'est Pompoko. Et par exemple, j'ai une amie que je vois demain, d'ailleurs, qui s'appelle Nao, qui est une danseuse de break qui est à Annecy. Elle est japonaise. Et la première fois que je lui ai dit que ma compagnie s'appelait Pompoko, elle était avec sa fille. Et les deux, elles se sont retournées l'une vers l'autre. Et elles se sont regardées. Elles ont dit « Oh, Pompoko !» Et elles ont tapé leur bide comme ça. Et du coup, en japonais, c'est rigolo aussi. Et du coup, il y a un truc de... bah, poétique mais pas naïf. Grandiose mais pas arrogant. Et... quand même, essayer de donner de l'énergie et oui. de... plutôt que d'en prendre. Et voilà.
Que c'est quelque chose d'assez positif.
Ouais, grave. J'essaye.
Ouais.
Je pense que c'est juste comment je suis aussi dans la vie. Donc forcément, ça allait être un peu le reflet de ma personnalité, d'une manière ou d'une autre.
Et du coup, bah, sur cette dernière question, on va écouter une dernière musique avant de mettre fin à notre émission. On écoute Sarah Vaughan, Lullaby of Birdland.
Always hear when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, bill and coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go. Flying high in birdland, high in the sky up above, all because we're in love. Doop doop be dee you be bo doop be doop be dee ya ba da ba doop be doop be ah. Sa be doop ya ba doop dee you doop be da ba dee ba doop be dee ya doop dee be ya doop be doop be ah. Sha ba 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 beep 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 be doop dee ba da ba be ya ba 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 dee ya. She ya 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 ba ba we ya dee be dee ya doo be you be doo be ya dee bo doo ba doo be dee ya. So be dee ya doo m shoot ya doo m. Shabby-dooby, shabba-ba-doob-dee-dee-oo-ba. And there's a weepy old willow, he really knows how to cry. That's how I'd cry in my pillow if you should tell me farewell and goodbye. Lullaby of birdland, whisper low, kiss me sweet and we'll go.
flying high in Birdland, high in the sky up above, all because we're in love.
Et on arrive à la fin de cette apérophonie. Déjà, est-ce que Maëlle, Kylian, vous avez quelque chose à rajouter pour la fin de l'émission?
Ce sera diffusé en janvier?
Ouais. Oui, parce qu'on tourne, fin décembre, juste avant les vacances de Noël.
J'allais dire joyeux Noël, mais du coup, ça marche plus.
C'est mort. Bonne année, sinon, puisque ça va sans doute être notre première apérophonie diffusée. Voilà. Donc,
Bonne année. Bonne santé.
Bon courage pour les gens qui ont des partiels en janvier.
Oui, aussi. Et le spectacle Season of the Witch, le 28 janvier à Est, à 19h.
Et oui.
Et merci beaucoup, Liam, d'avoir fait notre technique. Moi, je vous remercie d'avoir été là. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle apérophonie.
À bientôt.
Merci, bisous.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie !
Quoi ?
Sur Campus Grenoble ! Sur quoi ? Sur le 90.8 !
Ah, sur Campus Grenoble 90.8 !
Oui !